Franck Tillier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous retrouve pour le 15e, déjà, 15e suspense, 15e thriller, Rêver, publié au Fleuve Noir. Alors, on connaît votre intérêt, votre appétence pour tout ce qui touche aux sciences et aussi à la psychologie. Alors, cette fois-ci, vous êtes allé nous dégoter encore un sujet absolument passionnant qui est celui du sommeil. Mais alors, un sommeil évidemment perturbé, sinon il n'y a pas d'histoire à raconter. Et en particulier, la narcolepsie. Donc, votre personnage principal, Abigail, qui est ce qu'on appelle une profileuse, enfin, une psy qui travaille pour la police, pour essayer de dresser le portrait comme ça des criminels. Elle est victime de, on peut le dire, c'est une maladie, une pathologie, la narcolepsie. Réexpliquez-nous ce qu'est la narcolepsie.
Alors, la narcolepsie, c'est vrai que c'est une maladie du sommeil très complexe. On la connaît tous plus ou moins. D'un cliché, on sait que ce sont les personnes qui s'endorment un peu n'importe où, n'importe comment, et qui tombent dans un sommeil de plomb incontrôlable. Mais il y a d'autres symptômes que j'ai, qui sont vraiment idéaux pour un auteur de thriller. C'est cette incroyable capacité qu'ils ont à confondre les rêves et la réalité. C'est-à-dire que eh bien, vous êtes narcoleptique, vous rêvez par exemple que vous corrigez des copies parce que vous êtes prof de français. Le lendemain matin, vous allez en classe et vous distribuez ces copies. En fait, elles ne sont pas du tout corrigées. C'est-à-dire qu'en fait, certains rêves deviennent de véritables souvenirs. Donc, ils oscillent comme ça, les narcoleptiques, entre rêve et réalité. Ils prennent certains rêves pour la réalité et la réalité parfois pour des rêves, ce qui complique très fort leur existence.
Donc ça, c'est établi, ça fait vraiment partie des symptômes de la narcolepsie.
Oui, il y a celui-là, il y en a un autre que j'utilise aussi qui est la cataplexie, c'est-à-dire
Voilà, ouais, on apprend toujours des mots
un peu
un
barbare,
peu barbares avec vous.
hein.
Donc la cataplexie. Alors j'avoue que celui-là, je ne le connaissais pas.
Oui, alors c'est d'un seul coup, ce sont les muscles qui se déconnectent. Donc la personne, si elle était en train de marcher, tombe au sol. Alors elle reste consciente, mais incapable de bouger. Et c'est vrai que j'ai tiré pas mal d'anecdotes d'un narcoleptique que j'ai
Alors,
rencontré.
c'est lié à la narcoleptie, c'est
Oui,
ça, c'est une
on dit
manifestation.
narcoleptique cataplectique, c'est un symptôme supplémentaire. Et par exemple, si vous nagez, eh bien vous coulez. Et ça, c'est une vraie personne narcoleptique qui m'a raconté ça et qui m'a dit qu'il se serait noyé s'il n'y avait pas eu quelqu'un à ses côtés. Donc, ils ne peuvent plus conduire. Enfin, ça handicape très fortement leur existence.
Alors, il y a encore autre chose, mais là, mes souvenirs de grec m'ont un peu aidé. Les hallucinations hypnagogiques. Hypnagogie, en grec, enfin, c'est ce qui mène, ce qui conduit au sommeil. Donc, c'est ça, c'est le moment où. Enfin, c'est l'endormissement, et il se passe des choses à ce moment-là.
Oui, c'est cette phase très très trouble au moment où l'on s'endort en fait. On ne sait plus très bien si on est dans la réalité, si on est déjà en train de dormir. Et
Et
pour
ça, on
les
l'a tous connu, ça n'est pas une maladie.
non, alors le problème c'est que pour les narcoleptiques, c'est que ce sont les rêves qui viennent s'incruster en quelque sorte dans leur éveil. C'est-à-dire que eh bien, vous êtes en train de conduire, vous êtes narcoleptique, et d'un seul coup, vous voyez devant vous passer des personnages devant votre voiture, ce qui vous contraint à freiner d'un coup sec. Or, il n'y a personne. C'est juste le rêve qui était en train de prendre possession du narcoleptique qui ne se rend pas compte qu'il est en train de s'endormir.
Ah oui,
Et donc,
d'accord.
on imagine très bien ce personnage de héroïne du roman qui porte l'histoire. Eh bien, quand elle raconte quelque chose, est-ce que ça s'est réellement passé? Est-ce que les événements qui se passent autour d'elle sont bien réels ou est-ce qu'ils viennent de ses rêves? Donc, elle oscille comme ça entre fiction et réalité. Et le lecteur aussi, c'est ce que j'ai voulu à travers ce roman, c'est que en le lisant, on ne sache plus très bien nous-mêmes si on se trouve l'un des rêves d'Abigail ou dans la réalité.
Pour vous, c'est du nanan, c'est un sujet en or, ça.
Oui, c'est un sujet qui était vraiment l'idéal quand j'ai fait mes recherches sur le sommeil, de découvrir tous les prismes de cette maladie. Le personnage porte des ressorts dramatiques très forts en lui. Et voilà, j'ai voulu mêler finalement une intrigue policière, puisqu'elle travaille sur une grosse affaire de disparition avec les gendarmes, et aussi une intrigue très très personnelle, puisqu'au tout début du roman, le père et la fille d'Abigail sont victimes d'un accident de la route, dans laquelle elle est impliquée, puisqu'elle était aussi dans cette voiture. Eux sont décédés, mais elle, on la retrouve à côté du véhicule, sans dommage, elle n'a presque pas de blessure. Et tous les spécialistes lui disent, mais c'est impossible que vous ayez été éjectée de la voiture. Donc elle ne comprend pas. Et elle va mener donc, en plus de cette enquête policière, une enquête personnelle où elle va essayer de comprendre les circonstances de l'accident et surtout qui elle est réellement elle-même.
Donc une double enquête, l'enquête sur ce criminel Freddy qui kidnappe les enfants et que les policiers ont surnommé Freddy parce que après les enlèvements d'enfants, il laisse des espèces d'épouvantails, enfin de poupées qui représentent ces enfants, qu'il revêt des habits des enfants, mais à chaque fois lacérés, griffés et avec du sang, d'où ce surnom évidemment de Freddy donné par la police et qui fait référence au Freddy de Wes Craven.
Oui, le Freddy que toutes les personnes de ma génération, les quarantenaires connaissent bien, Freddy Krueger, le personnage avec ses longues griffes de Wes Craven. Alors c'est vrai que Freddy a un rapport très fort avec le sommeil aussi, puisque dans le film original de Wes Craven, il pénètre les cauchemars des enfants pour les tuer à l'intérieur même de leurs cauchemars. Et donc j'ai vraiment voulu pousser l'histoire jusqu'au bout, y compris même d'ailleurs dans le titre du roman, puisqu'il s'appelle Rêver, et vous verrez que c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, hein, c'est un palindrome.
Palindrome.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on en parlait tout à l'heure, pour moi, il y a un miroir entre l'éveil et le sommeil, c'est-à-dire que dans cette phase d'endormissement, on traverse le miroir, on passe de la réalité à l'imaginaire, et donc un peu comme Alice au Pays des Merveilles, et voilà, c'est ce qui explique le choix de ce titre.
Alors donc, pour préparer ce livre, comme à chaque fois, vous avez fait tout un gros travail d'enquête, de documentation. Donc j'imagine que vous avez vu des spécialistes.
Oui, j'ai passé pas mal de temps au CHR de Lille, puisque c'est un peu mon fief quand je fais mes recherches. Donc je suis allé
dans... Vous en faites une sacrée pub, hein, promotion à chaque fois.
Oui, j'aime bien aller là-bas. C'est vrai que là, je suis allé dans un centre du sommeil, une unité du sommeil où l'on essaye de comprendre pourquoi les gens dorment mal, pourquoi ils ont des maladies. Donc j'ai vu des personnes qui étaient branchées, qui dormaient. J'ai discuté avec un professeur spécialisé dans les maladies du sommeil. Et aussi, j'ai rencontré une personne atteinte de narcolepsie. Parce que rencontrer les spécialistes et les personnes justement atteintes de ces pathologies, c'est très très important. Ça permet de donner de la crédibilité au personnage. Comment vit un narcoleptique? Est-ce qu'il peut mener une activité normale? Comment naît la maladie? D'où elle vient? Comment on s'en sort avec tout cela? Et donc, c'est vraiment primordial de pouvoir discuter pour épaissir vraiment les personnages du roman.
Ouais. Et ça se sent ici, parce que la finesse du portrait psychologique de votre personnage n'a peut-être jamais été aussi intense.
Oui, je me suis de plus en plus, de toute façon, dans mes histoires, je m'intéresse à ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, de développer le mieux possible les personnages, de développer la psychologie, puisque les lecteurs aiment plus la psychologie que le sang, finalement. Et Abigail, j'ai voulu la travailler dans ce sens-là, prendre une femme, une mère un peu courage, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle se bat contre sa maladie, elle s'est toujours battue pour aller le plus loin possible, pour pouvoir élever sa fille dans les meilleures conditions. Et il y a cet instinct maternel qui est très très fort, même si sa fille au début du roman disparaît dans cet accident, Abigail continue à lutter et à vivre comme si sa fille était finalement à ses côtés. Donc j'aime beaucoup les personnages féminins dans mes livres, c'est vrai qu'on les retrouve souvent en héroïne parce que je trouve que les mères sont très très fortes, et d'autant plus que souvent mes personnages féminins sont confrontés à des univers masculins. Ici, en l'occurrence, la gendarmerie, ce qui permet de développer des situations dramatiques assez fortes.
Puis alors, vous êtes diabolique, hein, parce que vous vous amusez à brouiller la chronologie, hein, de votre histoire. On fait des sauts dans le temps en permanence. Alors, vous nous aidez quand même. Il y a à chaque tête de chapitre un petit curseur, puisque toute l'intrigue se déroule entre deux événements. Le 6 décembre 2014, l'accident, ce fameux accident de voiture, et le 25 juin 2015, le lavoir en flammes qu'on va laisser découvrir au lecteur. Et donc ces sauts dans le temps permanents, là aussi, comme pour Abigail, plonge le lecteur dans une espèce de désarroi temporel. Et il ne sait plus où est la frontière entre les rêves et ce que vit vraiment Abigail. Et on ne sait plus trop à quel moment on est exactement. Et une espèce de vertige comme ça. Vous êtes bien amusé. Hein.
Oui, j'aime m'amuser. je considère le thriller, le roman policier, comme un jeu entre un romancier et son lecteur. Où le lecteur essaye de découvrir la vérité et le romancier essaye de brouiller les pistes du mieux qu'il peut. Et puis c'est vrai que cette structure un peu désordonnée, elle est volontaire aussi. J'ai voulu pousser le concept du rêve jusqu'au bout, c'est-à-dire quand on rêve, on ne sait jamais vraiment quand commence le rêve, quand il se termine. Et parfois, les actions sont complètement mélangées. Et donc, rêver, le roman est construit un peu de cette façon-là, entre ces deux périodes importante. La première est celle de l'accident. Et la deuxième est une période plus éloignée, il y a à peu près 6 mois d'écart, où on se rend compte que l'enquête policière continue à exister. Et aussi, on découvre Abigail qui, évidemment, a évolué depuis l'accident. Donc, c'était important d'avoir ces deux, d'osciller entre ces deux périodes dans le roman.
Et puis alors, vous innovez, il manque un chapitre. Chapitre 57. Oui. Et pour le lire, eh bien, il faut découvrir un code à l'intérieur du livre. Oui. Et une fois qu'on a ce code, eh bien, on est renvoyé sur Internet, vers un site qui est le site du livre. Et là, on peut avoir accès à ce chapitre 57. Donc, donc le code, moi, je l'ai trouvé. Hein, ça commence par un 1, ça se termine par un 8.
Voilà.
Bon, on n'en dit pas plus.
Exactement. Oui, alors c'est encore une fois la notion de jeu avec le lecteur. Mais ce qui est important de dire, c'est que le livre se lit évidemment sans ce chapitre supplémentaire, c'est-à-dire qu'il est complet.
Oui.
Le chapitre supplémentaire apporte un éclaircissement supplémentaire.
On va parler un peu de vous et du sommeil. Vous avez le sommeil facile ?
Oui, je dors très très bien finalement, puisque je pense qu'en écrivant mes romans, ça me permet d'avoir un sommeil très, très sain, hein, puisque j'évacue un peu mes cauchemars dans mes livres. Et puis c'est important d'avoir un bon sommeil. En ayant fait mes recherches justement sur le sommeil, on se rend compte que les gens dorment de moins en moins, ils ont de plus en plus de problèmes. Et le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est ça qu'il faut surtout voir. C'est une activité intense du cerveau où le corps se reconstruit. Et donc voilà, il faut très très bien dormir pour faire de belles choses en journée.
Puis j'essaye de cauchemar.
J'en ai fait.
Non, puisque vous les écrivez.
J'en ai fait avant d'écrire quand j'étais adolescent.
Ah, oui.
Jusqu'au premier roman, j'ai fait beaucoup de cauchemars, y compris des cauchemars récurrents, ce qui est assez terrible parce que.
De quel genre ?
Ah, mais je me souviens plus du cauchemar, mais c'était une histoire de loup qui venait me manger, quelque chose de
très.
Ah,
pas de renard, parce que ici.
Bah voilà,
on a,
d'où le renard.
Un masque de renard.
Mais vous savez, c'est terrible parce que vous vous endormez, vous savez que vous allez faire ce cauchemar. Mais une fois que vous êtes dans le cauchemar, vous ne savez pas que vous faites le cauchemar. Et donc, c'est quelque chose d'incroyablement intense à vivre. Et finalement, je crois que d'en rêver, j'ai aussi retranscrit un peu ce mal-être qui m'a habité quand même quelques années.
Mais vous faites alors plus de cauchemars peut-être aujourd'hui, mais des rêves, non ?
Oui, je me suis beaucoup intéressé au milieu des rêves. J'arrive aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des rêves lucides, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un rêve, vous prenez conscience que vous êtes dans le rêve et d'un seul coup, vous êtes au milieu de votre rêve, vous vous dites « mais je suis en train de rêver en ce moment ». Et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans le rêve. C'est quelque chose que j'invite les auditeurs à découvrir, à faire quelques recherches sur le rêve lucide, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. C'est juste une histoire de concentration au moment de l'endormissement, un peu d'auto-hypnose, on va dire. Et puis, on s'endort finalement en étant un peu éveillé. Donc, le cerveau pense que vous dormez, mais vous contrôlez un peu la situation. Et c'est vraiment... Voilà, je me suis aussi amusé en écrivant ce roman. Il faut toujours s'amuser pour mettre tout ce qu'on peut dans un roman.
Votre dernier rêve ?
Mon dernier rêve, écoutez, celui dont je me souviens, il commence souvent, pareil, à cause de ces rêves lucides, c'est que je me réveille souvent dans ma chambre d'enfant, quand j'étais enfant. Je passe par j'avais un Velux, je passe par ce Velux, je l'ouvre et je me mets à voler, en fait, comme ça, au-dessus de la ville. Et voilà, alors après, ça se termine, je ne sais où, mais en général, il démarre un peu de cette manière assez particulière.
C'est pas mal, c'est pas mal. Alors après, il y a le rêve, voilà, les choses qu'on souhaiterait faire. Quel était votre rêve d'enfant ?
Mon rêve d'enfant, c'était d'être pilote de ligne, pilote d'avion.
Pas d'écrire.
Non, l'écriture est venue assez tard finalement, ce rêve d'écriture. C'est concrétisé très très rapidement. Quand j'ai eu envie d'écrire, je me suis mis à écrire en fait. Ça s'est passé quasiment du jour au lendemain. Mais on peut dire aujourd'hui voilà, que je vis quelque part un rêve éveillé puisque je vis de cette passion de l'écriture. Et chaque jour, je me rends bien compte de que c'est un rêve qu'il ne faut pas, qu'il faut prolonger le plus longtemps possible.
Et pilote de ligne, aucun regret là.
Non, c'est un beau métier. C'est encore un métier qui me fait rêver parce qu'il nous fait voyager. Mais non, aujourd'hui, j'ai vraiment j'assouvis tous mes désirs dans l'écriture.
Et là, dans la vie, j'allais dire, vous rêvez de quoi aujourd'hui ? Enfin, autrement dit, quel serait votre souhait le plus cher ?
Le rêve, c'est vraiment d'avoir que les lecteurs continuent à me suivre. Ils sont. J'ai bien conscience que j'ai la chance de vivre cette vie de romancier, de pouvoir vivre de ma plume, de mon écriture, de mes histoires. Et c'est vrai qu'à chaque roman, c'est un nouveau défi. C'est d'espérer que les lecteurs seront bien présents et surtout qu'ils apprécieront cette nouvelle histoire que je leur concocte. tous les ans. Donc voilà, ce rêve, je le vise. Le but, c'est de, voilà, d'aller plus loin possible dans l'écriture et de raconter le plus d'histoires possible.
Et ça vous plaît d'empêcher vos lecteurs de s'endormir
avec vos livres ? C'est le but. C'est le but, puisque moi-même, j'ai eu quelques problèmes de sommeil en étant adolescent quand je lisais mes romans de Stephen King, et je m'en voulais beaucoup. Je disais, mais monsieur Stephen King, vous êtes horrible de m'empêcher de dormir. Mais en même temps, j'y prenais tellement de plaisir, c'était tellement un plaisir de découvrir ces histoires terribles, que finalement, je crois que c'est ce qui m'a mené à l'écriture, c'est cette envie justement de transmettre cette peur, ce frisson à mes lecteurs. Et je sais que, bien qu'ils soient effrayés en lisant les romans, ils prennent beaucoup, beaucoup de plaisir.
Bon, qu'est-ce que je vous souhaite ? Bonne nuit ?
Non, bah, et bien,
un peu tôt.
Oui,
à 9h du matin.
C'est un peu tôt, mais non, encore d'essayer de réussir à finir mon, enfin en tout cas à poursuivre l'écriture de mon prochain roman, dans lequel je suis déjà plongé, mais qui est toujours une véritable épreuve dans l'écriture, mais une épreuve très très qui apporte beaucoup de plaisir.
Et on peut avoir un petit scoop, une petite info, quel en sera le thème ? Vous le savez évidemment déjà, vous le tenez.
Oui, je tiens mon thème. Mes personnages de Franck Charcot et Lucienne Bell, donc mon couple de policiers,
revient
après une année de repos mérité. Et on va dire que le thème principal sera cette fois-ci le sang, avec toute la mythologie qu'il y a autour du sang, toute l'histoire autour du sang. Et aujourd'hui, ce que représente le sang dans le circuit, le don du sang, que devient-il ? Et tous les enjeux, voilà, qui sont autour de cet or rouge qu'on a tous au fond de nous-mêmes.
Merci Franck Tillier.
Merci beaucoup.
Rêver au fleuve noir.